Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Éric Boisset. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Casterman pour parler de l'exercice de la sagesse. Jacques Casterman, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric, bonjour Jacques Casterman.
Bonjour.
Vous avez reçu une formation scientifique à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes devenu kinésithérapeute. Mais ça, c'était il y a très longtemps. En même temps, toujours il y a très longtemps, vous avez pratiqué l'aïkido. Vous vous y êtes intéressé de près. Et puis un jour, vous avez rencontré Karl Graf Durkheim, dont vous étiez d'ailleurs venu nous parler il y a 2 ans, ici même, aux Racines du Ciel. Et vous êtes parti, à la suite de cette rencontre, vous installer en Forêt-Noire pour suivre son enseignement. Et cet enseignement, vous l'avez suivi pendant plus de 20 ans. C'est dire que vous êtes un homme de très grande persévérance et de grande patience. Vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas par hasard que vous aviez pratiqué l'aïkido. Avec Durkheim, dont la pensée s'appuyait en fait sur le zazen et l'art du tir à l'arc, vous avez compris le sens de votre attirance pour cet art zen, si on peut dire, qu'est l'aïkido. Et puis, dans la suite logique de tout cela, vous avez voyagé au Japon, rencontré des maîtres qui vous ont initié à la dimension spirituelle, justement, de l'aïkido, du tir à l'arc, de la cérémonie du thé, mais aussi, bien sûr, de la méditation zen. Et aujourd'hui, vous animez dans la Drôme les activités du centre Durkheim, qu'il a lui-même inauguré, je crois, et vous racontez tout ce parcours, qui est de fait un parcours intérieur, et dont la cohérence ne vous apparaît à vous-même qu'au fil des temps. Ce parcours, donc, vous le racontez dans « La sagesse exercée », publié aux éditions du Relier. Et c'est donc de tout ce que vous avez appris le long de cette vie, à la fois d'initiation reçue et donnée, que vous allez nous parler aujourd'hui aux Racines du Ciel.
Alors, dans la très belle préface que vous a consacrée notre ami André Comte-Sponville, le philosophe, il vous cite en disant « La sagesse ne se raisonne pas, elle s'expérimente ». Et il explique justement que ce qui manque à la philosophie, bien souvent, ce sont des exercices concrets qui permettent de relier le corps et l'esprit. Alors, expliquez-nous comment vous avez vous-même commencé à expérimenter la sagesse dans votre propre parcours.
En lisant un livre, j'avais 17 ans, je crois, et j'ai découvert un petit livre qui a un succès énorme et qui est traduit dans quantité de langues. C'est le Zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, écrit par un philosophe allemand qui était appelé au Japon pour donner des cours de philosophie, mais qui a profité de son séjour pour entrer dans la philosophie extrême-orientale qu'est le Zen. Et comme à Durkheim, qui a suivi son parcours quelques années plus tard, il lui a été dit que pour comprendre le Zen, il faut pratiquer un exercice. Sans quoi ça reste très intellectuel, très théorique, mais ça ne touche pas le fond de l'être. Et son livre m'a véritablement transporté. Je l'ai relu, je l'ai réécrit, d'autant plus que je n'ai pas trouvé d'école de tir à l'arc traditionnelle en Belgique, et qu'ayant découvert l'aïkido, je me suis dit, mais il y a là une relation tout à fait intime entre ces arts différents. Et j'ai recopié le livre de Herigel en remplaçant le mot tir à l'arc par aïkido, tout en pratiquant. Ça, c'était mon premier pas dans le domaine du zen, dans l'exercice de la sagesse.
Et vous avez fait de l'aïkido pendant des années? Ça a été une longue pratique ou juste une initiation, une découverte et vous
non,
êtes passé à autre chose?
Non, j'ai pratiqué pendant une vingtaine d'années. Ouais. Et donc, j'ai même enseigné pendant 5 ans, notamment à l'Université de Bruxelles. J'ai enseigné aux étudiants aussi.
Alors, dites-moi un
mot. Et chez Durkheim, j'ai enseigné aussi.
Alors justement, je sais que l'aïkido peut être perçu par certains comme un art martial, comme on fait du judo en France, etc. Mais je sais qu'il y a une philosophie très profonde qui sous-tend l'aïkido. Ce serait intéressant que vous en parliez un petit peu. En quoi l'aïkido est une sagesse, une pratique de la sagesse?
En général, nous voyons ce genre de proposition artisanale ou artistique avec un esprit de performance, avec un esprit d'acquisition. Moi-même, quand j'ai commencé, peut-être influencé par les films de James Bond, j'avais l'impression que si je connaissais 200 techniques par cœur, je serais invincible. Ça, c'était mes débuts. Mais ça a été très vite renversé parce qu'au fond, l'aïkido, c'est comme pour toutes les autres dimensions du zen, une quête de sa vraie nature. très vite vous vous rendez compte que ce qui importe au fond, ce n'est pas une performance extérieure, mais c'est une réalisation intérieure, mais qui se fait à travers une autre vision du corps, puisqu'il s'agit toujours d'un engagement du corps. Et au fond, c'est Heidegger qui m'a aidé le plus il y a une dizaine d'années, quand j'ai lu les deux phrases que Heidegger prononce. « Je vis parce que je suis un être vivant, je pense parce que je suis un être pensant. » Et je crois que le drame de l'homme, c'est de s'identifier à la deuxième phrase, au point d'oublier la première, qui est son fondement vital. C'est le corps qu'on est, comme on l'appelle en Allemagne, en prononçant le mot « Leib, ich Leib »,« je suis corps ». Et je crois que c'est la découverte qu'en tant que kiné, formé à l'idée du corps qu'on a, j'ai découvert dans la pratique le corps que je suis. Et finalement, ce qu'on appelle la réussite ou la performance, c'est une manifestation du corps qu'on est, qui ne pense pas par « je pense parce que je suis un être pensant ». Réussir une performance en aïkido ou dans le tir à l'arc ne passe pas par la mentalisation, mais ça passe par la libération du mental, pour retrouver le fondement de l'être, je suis corps. Et c'est ce parcours que j'ai eu la chance de faire pendant une quarantaine d'années maintenant et qui me passionne toujours encore.
En même temps, vous racontez que votre pratique de l'aïkido, au début, n'était pas aussi accomplie et que c'est finalement le passage par l'enseignement de Durkheim qui vous a, de manière oblique ou directe, je ne sais pas d'ailleurs, en tout cas appris à réappréhender cet art qui vous fascinait, que vous aimiez, mais que vous n'arriviez pas peut-être à développer comme il aurait fallu avant d'avoir reçu cet autre enseignement qui était celui de Durkheim.
Absolument. La première partie de ce parcours dans l'aïkido, c'était pour moi un sport amélioré ou une discipline martiale. Et je pensais être un connaisseur du corps, avoir une bonne connaissance du corps, puisque j'avais fait 6 ans d'études sur le sujet à l'Université de Bruxelles. Et c'est chez Durkheim que j'ai été renversé quand il m'a dit « Vous pratiquez avec le corps que vous avez ». Et on ne pratique pas un art japonais dans le monde du zen avec le corps qu'on a, mais avec le corps qu'on est. Et je lui ai demandé, mais alors quelle est la différence entre les deux? Et ça, à la radio, c'est peut-être un peu difficile, mais il m'a dit, vous savez, c'est facile, voilà le corps qu'on a. Et il m'a montré sa main. Il dit, si vous venez voir ma dépouille, c'est encore cette main que vous verrez. Et comme il avait de l'humour, il ajoutait avec un peu plus d'arthrose à chaque doigt. Quant au corps qu'on est, le voici. Et je vous le montre comme il me l'a montré. Il a bougé simplement les doigts, comme on voit les doigts d'un enfant qui bouge dans un berceau, et ce qui émeut les parents et les grands-parents. Et pour moi, c'était un choc définitif. Je n'avais plus à chercher à comprendre. J'avais vu ce qu'il voulait dire. C'est que le corps est action. Le corps n'est pas quelque chose. Le corps est action. Et le corps, au fond, c'est la manifestation, la réalisation des actions de l'être. Et c'est ça, le rapport avec l'être dans les arts martiaux. Un maître japonais qui animait un stage, et à qui je demandais un jour, mais comment avez-vous fait pour vous débarrasser ainsi de plusieurs adversaires en même temps? Il m'a dit, je n'ai rien fait, absolument rien. Je ne fais que maîtriser les gestes qui était déjà mien lorsque j'étais un petit enfant. Et ça aussi, c'est une remarque impressionnante. C'est simplement faire un retour en arrière, une marche en arrière. C'est revenir à ce que nous sommes avant la mentalisation, avant l'ego, avant le raisonnement, avant l'intellect. Et c'est là que se réalise alors un changement total, et qu'on fait l'expérience que ce qui manque le plus à l'homme actuel, comme par exemple la tranquillité de l'âme, la sérénité, la confiance, ce ne sont pas des ressources du mental, ce sont des ressources du corps vivant.
Alors, on peut le faire par un chemin thérapeutique. Il y a un certain nombre de gens qui font un travail qui leur permet de se libérer de tous les mensonges du mental et tout ce que l'ego a mis en place pour se protéger. Et on peut le dénouer par un travail qui passe en partie par la pensée, d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut le faire directement par le corps ? c'est-à-dire sans penser, sans passer par l'étape de la pensée.
J'accompagnais Durkheim pour un grand congrès qui réunissait quelques 800 psys, psychiatres, psychothérapeutes, psychanalystes, à Lindau, en Autriche. Et on lui avait proposé la conférence inaugurale, parce qu'on se demandait bien, mais qu'est-ce qu'il propose comme thérapie là, dans ce petit village de la Forêt-Noire depuis 50 ans ? Et il a commencé son discours en disant, « Chers amis, la thérapie que vous proposez n'en est en fait qu'une moitié. C'est la thérapie pragmatique qui sert à l'homme à mieux fonctionner dans son existence. Mais il y a une autre moitié de la thérapie, et cette autre moitié éveille l'homme à sa propre essence, cette réalité trop souvent encore ignorée. Et c'est ça qui distingue au fond le travail que je propose aujourd'hui et le travail que beaucoup de personnes font, que j'ai fait moi-même dans un parcours psychanalytique, c'est que c'est une voie directe vers notre propre essence. Et c'est notre propre essence qui est le lieu de la guérison. C'est ça qui est encore difficile à comprendre aujourd'hui, parce que pour nous, l'essence, l'être, ce sont des concepts qui sont au sommet de la pyramide des concepts, mais on n'en a pas l'expérience. Et que ce soit la pratique de la méditation, de l'aïkido, de la cérémonie du thé, ce qui au fond est en cause et en but, c'est l'éveil à notre propre essence, que dans le zen ils appellent notre vraie nature. Et c'est une expérience époustouflante de se sentir tout à fait libéré de ce qu'on appelle la peur, l'inquiétude, la méfiance, l'agitation, et donc de se retrouver dans notre état de santé fondamental, dont les symptômes sont la paix intérieure, la confiance, la sérénité. Donc c'est un travail de déségocentration, au fond, qui nous est proposé, sans qu'on nous le dise au départ, parce que ce serait peut-être décourageant et inquiétant, mais c'est là que se réalise l'éveil à notre vraie nature. Et l'exercice, quel qu'il soit, c'est pour mettre l'ego face à lui-même. Dans le tir à l'arc, c'était ça tout le temps. C'est très difficile de tirer une flèche. D'abord, l'arc est conçu d'une manière tout à fait illogique pour les personnes qui tirent à l'arc aux Jeux Olympiques. Ils ne comprennent pas comment on peut tirer avec un arc pareil.
Pourquoi ? Quelle est la différence ?
C'est qu'il n'y a pas de viseur, déjà. Et puis, l'attraction de l'arc est invraisemblablement difficile. Au début, on y met toute sa volonté, j'ai envie de dire, qu'on mord la corde avec les dents pour y arriver. Et le maître vous désappointe en vous disant « Mais ne tirez pas avec les muscles, laissez vos bras s'ouvrir plutôt que d'essayer de les ouvrir. » Alors là, vous rencontrez tous les états d'âme qu'un homme peut rencontrer au cours de son existence pendant une dizaine d'années de travail du tir à l'arc. Et finalement, vous vous rendez compte un jour que en entrant vraiment dans chaque geste, que ce soit celui qui consiste en cocher la flèche, à lever les bras pour lever l'arc, à ouvrir les bras pour ouvrir l'arc, et à décocher la flèche, tout cela finalement se fait absolument avec une autre force que celle que l'ego envisage comme étant la seule à disposition, c'est-à-dire sa force musculaire. Là aussi, en tant que kiné, j'ai été assez secoué, assez bouleversé.
Thank you.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lely Onvar.
C'est une tension très forte de tout le corps, mais si on ne maîtrise pas cette tension, si on ne sait pas justement transformer la tension en détente, alors on est arrêté dans son geste et on ne peut pas continuer. Est-ce que c'est ça le secret du bon tireur à l'arc? C'est d'être à la fois dans une tension et dans une détente complète.
On pourrait même parler d'un rapport juste entre tension et détente, qui est un geste de la vie, qui est une action de la vie, comme notre respiration, qui se réalise dans un geste de tension, l'inspire, et de détente, l'expire. Et c'est arrivé à se confier à cette force du fond, à cette force de l'être, qui nécessite, heureusement, sans devoir couper les chairs avec un sabre, j'ai eu beaucoup de chance, c'est se libérer de cette force construite, finalement, mais qui est bien plus faible par rapport à cette force qu'on est. Si vous avez déjà présenté votre index à la main d'un bébé, et le bébé a ce que le médecin appelle un grasping reflex, ce qui est bien triste pour traduire la force incroyable que vous ressentez quand cette petite main vous saisit. Il n'y a pas encore d'ego chez ce bébé. Il n'y a pas encore distinction, moi et son doigt. Il n'y a pas encore de désir, je vais lui serrer la pince. Pas du tout. Il y a une rencontre entre deux êtres à travers la main et le doigt. Et cette force est incroyable. Et je comprends alors ce maître de tir à l'arc qui me dit « Je ne fais que maîtriser les gestes qui étaient miens dans la toute petite enfance. » Donc c'est ça le secret. Il n'y a pas d'autre secret que celui-là.
Moi, en vous écoutant, je parlais du tir à l'arc, je pensais aussi, je me disais au fond, ce qui compte, c'est une forme de qualité de présence et d'attention à chaque geste, à chaque mouvement. Alors que bien souvent, on fait des gestes et des mouvements en étant dans une mentalisation ou une pensée. Et est-ce que ce n'est pas tout simplement le secret aussi de ce que vous enseignez? C'est une qualité de présence à ce qu'on est.
Ce n'est rien d'autre que ça. C'est passer d'une manière d'être à une autre manière d'être. Et là, j'ai une anecdote. C'était au Japon, au cours d'une séchine de tir à l'arc. On tire 7-8 heures par jour. Et j'avais déjà une certaine pratique. Et chaque fois que j'étais dans cette position de la plus grande tension, mais pas crispation, tension, tout à coup, je sens que quelqu'un me pousse un petit peu dans le dos et je perds l'équilibre. Et la flèche, dans ce cas-là, elle tombe sur vos chaussures ou elle part vers le ciel. Je me retourne et c'était le maître Sagino qui part d'un grand éclat de rire. Il a renouvelé cette histoire pendant quasiment toute la journée. Et il m'a dit, après je lui ai demandé, pourquoi vous faites ça? Parce que tu n'es pas dans ce qu'on appelle le hara. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Que quand tu tires, tu es déjà dans la cible qui est là-bas tout à l'heure. Jamais oublié cette phrase. Tu n'es pas dans le hara. Tu n'es pas dans l'action au moment présent. Tu es déjà plus loin. Et donc, tu n'as pas d'équilibre. Je dis, mais comment ça se fait? C'est parce que tu tires animé par le désir de réussir à tout prix, ce qui nécessairement s'accompagne de la crainte d'échouer. Et la flèche ne peut pas faire ce pourquoi elle est faite, percer le centre de la cible. Donc c'est se libérer du désir de réussir à tout prix, c'est se libérer de la crainte d'échouer, c'est se libérer de l'identification à l'ego. Et ça, c'est cette autre manière d'être dont vous parlez très justement.
Alors ça, c'est pour le tir à l'arc qui est un peu plus connu, on va dire, en Occident. En quoi est-ce que ça s'applique aussi à la cérémonie du thé, qui est peut-être une chose beaucoup plus mystérieuse pour nous?
C'est encore Durkheim qui m'a offert la clé de compréhension. Comment rassembler, réunir toutes ces disciplines aussi différentes que le thé ou l'arc ou l'aïkido? C'est la définition que Durkheim donne du corps vivant. Le corps est l'ensemble des gestes à travers lesquels l'homme se présente, se réalise ou se manque. Le corps est l'ensemble des gestes. Les gestes, ce sont ceux qui sont les nôtres juste après la fécondation. Ces gestes, ce sont ceux du disque embryonnaire qui devient l'embryon, qui devient le fœtus, qui devient le nouveau-né. Et ces gestes, ce sont aussi toutes les actions qu'on va engager une fois qu'on fait réflexion sur soi-même en disant « moi ». Et donc, toutes ces disciplines vous engagent dans un travail gestuel, une gestuelle. Le tir à l'arc, c'est une séquence de 8 gestes, c'est une danse de 8 gestes. La cérémonie du thé la plus simple, c'est une séquence de 60 gestes. C'est une danse de 60 gestes. Et tout le travail consiste à purifier le geste de tout ce qui le sépare de son côté tout à fait naturel, donc de notre propre essence. C'est un constant travail de purification. Mais je crois qu'un pianiste, un violoniste ou une danseuse qui nous écouterait pourrait dire « ben oui, c'est ça ». C'est aussi toute la vie du concertiste que de libérer les gestes de ses doigts. Au début, il a bien besoin de sa conscience ordinaire, de sa volonté, de sa mémoire pour interpréter une sonate de Scarlatti. Mais le jour où, sortant de scène, il vous dit « je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce soir, ce n'est pas moi qui ai joué ». C'est ça le moment précieux, c'est ça qui pousse les artistes à aller plus loin, les artisans aussi. Et c'est ça la cérémonie du thé, le tir à l'arc, la pratique méditative, c'est retrouver le geste pur, mais le geste dans le sens où tout geste est une intention de l'être.
Oui, et oui, alors c'est ça justement qui me trouble un peu, quand vous dites le geste pur ou le geste naturel. De l'extérieur, ça ne fait pas du tout naturel. En particulier, une cérémonie de thé, c'est extrêmement codifié. Ça peut paraître très... une vraie recréation, je dirais. C'est très raffiné, c'est jamais dans la nature, je
dirais. C'est très culturel.
C'est très culturel. Jamais dans la nature où un enfant n'a pas des gestes aussi maîtrisés. Aussi... C'est d'une très haute technicité. Alors comment cette haute technicité nous relie à quelque chose de plus primordial ?
Parce que le geste pur a 2 sources. C'est le geste inné. Et l'autre source, c'est le geste parfaitement maîtrisé. Et arriver à la maîtrise parfaite d'un geste, d'une action comme le tir à l'arc ou la cérémonie du thé, est le moment de cette bascule où vous retrouvez l'inné que vous êtes. Et c'est ça l'expérience de l'être, c'est ça l'expérience de la libération. Donc il n'y a pas de contradiction. On profite de l'ego qui entrave le geste inné pour le retrouver à l'occasion d'une maîtrise parfaite d'une action culturelle ou même cultuelle. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre.
Est-ce que ce n'est pas finalement le propre de tout rituel ? Est-ce que ce n'est pas pour ça que les hommes, toutes les parties de la Terre, ont des rituels et que le rituel doit suivre un ordre très particulier et vraiment obéir, je dirais, à une séquentialité très spécifique.
Vous avez tout à fait raison, et ça me touche beaucoup, parce que c'est vrai. Et ce qui caractérise cette tradition qu'on appelle le Zen, qui ne m'intéresse que dans ce qu'elle a d'universellement humain, c'est que tout a été ritualisé. Nous avons un maître Zen qui a été le maître des novices pendant 30 ans au Japon, dans le grand temple de formation des moines près de Tokyo, le temple fondé par Dogen au XIIe siècle. Et ce qui touche les personnes qui viennent participer à ces stages, donc à ces retraites de méditation, c'est que tout est rituel pour cet homme. Sa manière d'ouvrir la porte, sa manière de fermer la porte, sa manière d'être devant la grande baie vitrée qui, dans le dojo, s'ouvre sur la nature, les quelques pas qu'il fait pour monter un escalier, c'est d'une beauté. On a l'impression d'avoir une danseuse étoile de 80 ans parce qu'on a le même âge avec nous. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Tout est banal. Respirer, mais c'est banal, monsieur. 7 milliards et demi d'individus respirent. Ouvrir une porte, mais enfin c'est banal, j'ai quand même pas prêté attention à cette activité-là. Et c'est au contraire au moment où on ritualise, c'est-à-dire où on se permet de pratiquer l'exercice de la pleine attention à l'acte de marcher, à l'action d'ouvrir une porte ou de conduire sa voiture. C'est là qu'on retrouve son être profond et c'est ce faisant qu'on retrouve la paix intérieure ou la sérénité.
Moi, je voulais vous poser une question sur ce que vous appelez l'essence. Vous dites qu'il faut retrouver son essence. Est-ce que c'est une essence universelle? Est-ce qu'il y aurait pour vous une nature humaine universelle? Est-ce que c'est une essence divine? Ou est-ce que c'est une essence individuelle dont vous parlez? Une nature qui appartient à chacun?
Si elle est universelle, elle est donc aussi individuelle. C'est toute la difficulté du mot spirituel. Est-ce que la vie spirituelle, c'est confier un devoir particulier à l'être humain pour retrouver sa propre essence, sa nature profonde, ce qui en lui fait qu'il est ce qu'il est? Ou est-ce que l'homme est né spirituel? Et toute la pratique comme celle que propose le Zen, c'est pour devenir un être humain. J'ai beaucoup parlé de l'essence et de l'être avec notre ami Comte Sponville. Et il est vrai que c'est le concept qui est au sommet de la pyramide des concepts. Mais ce que j'ai appris chez Durkheim, c'est que c'est aussi la base de la pyramide. Parce que tout ce qui est, est. Donc le mot essence, en ce qui me concerne, je le traduirais plutôt comme étant être là. Être, c'est devenir. Devenir, c'est être. Qu'est-ce qui fait que je suis? J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais je suis. Donc je m'intéresse plus à la réalité actuelle et très concrète. Je suis avec vous deux, ici, car je viens d'où? Pour aller où? Je crois que c'est une autre approche de ce qu'on appelle l'essence. C'est l'expérience de l'essence. C'est passer de l'expérience « je suis moi » l'expérience « moi, je crois que je suis ce que je pense que je suis. » Et c'est passé de cette idée un peu curieuse à « je suis ». Et il n'y a ni distance, ni écart de temps entre ce que j'appelle « je » et ce que j'appelle « suis ». Il n'y a ni distance, ni écart de temps entre « je »,« suis », »,« corps ». C'est là l'expérience de l'essence. C'est une expérience de plénitude. C'est une expérience d'ordre, c'est une expérience d'unité. Ce qu'on peut vivre en assistant au coucher du soleil, en écoutant une œuvre de Debussy, ou en regardant la personne qu'on aime, les yeux dans les yeux. Mais ça, ce sont des expériences fulgurantes. Ce qui compte, c'est devenir celui que je suis et qui a fait cette expérience. Ce n'est pas se contenter de sauter d'une expérience à une autre, l'expérience de ma propre essence, de ma vraie nature, de l'être, mais c'est devenir quelqu'un qui est en contact, par sa manière d'être dans la vie de tous les jours, avec cette réalité la plus profonde.
Oui, alors c'est ça qui est très intéressant dans votre livre. Justement, ça s'appelle « La sagesse exercée ». Et il y a un double sens en réalité, puisque d'un côté, il y a ces exercices que vous faites, évidemment les exercices de méditation, de tir à l'arc, etc. Mais aussi pour vous, ces exercices doivent déborder, enfin, sont censés en tout cas, doivent, je ne sais pas si c'est le mot que vous employez, parce qu'il n'y a jamais de « il doit » et « il faut » dans votre livre. Mais en tout cas, ces exercices sont une invitation à ce que cela déborde dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que on ne soit pas en train de faire un exercice juste quand on est en train de le faire, mais que vraiment on soit dans cet état de tir à l'arc tout le temps. Ce qu'on appelait d'ailleurs dans les... que même Ignace de Loyola appelait la vigilance permanente, en fait, cette espèce de concentration permanente dans tous les actes, en réalité.
Je suis ce que je cherche, je suis ce dont j'ai la nostalgie, mais je l'ignore. Et c'est donc perdre l'ignorance. Ce n'est pas un état qu'il faudrait ajouter à un moi double XL pour devenir un moi spirituel triple XL. C'est perdre l'ignorance de ce que je suis réellement au fond depuis que je suis et jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'est vraiment un travail de retrouvailles avec ce qu'on perd dès le moment où on dit « moi ». Moi. Et ce travail, et là j'insiste un peu, c'est un travail sur le corps vivant. C'est très étonnant qu'on néglige à ce point le corps, si ce n'est dans le domaine de l'esthétique, par exemple, en première page des magazines. mais le corps en tant que façon d'être là, de la personne, de l'être humain. J'aime beaucoup Nietzsche. L'enfant dit « je suis corps ». Je suis corps et rien autre chose. Pourquoi ne dirions-nous pas comme l'enfant ? Et c'est vraiment ça, c'est ce retour à cette grande sagesse qu'est notre corps, comme le dit Nietzsche aussi. Ton corps, ton grand système de raison, ce sage qu'on appelle soi, et ça c'est vraiment une découverte aujourd'hui.
Mais vous avez raison, on est dans un paradoxe aujourd'hui, on a le culte du corps, mais d'un corps vécu extérieurement, pas d'un corps ressenti intérieurement.
Le corps phagocyté par l'ego.
C'est vraiment ancré dans le corps, mais en même temps, ça ne transcende pas le corps, mais ce n'est pas du matérialisme. Alors comment vous expliquez ça ? Ça m'a beaucoup troublé en vous lisant.
Pour ça, heureusement que iTunes existe et qu'on peut voir des films magnifiques sur la gestation. Je suis, ça commence quand vous voyez le disque embryonnaire. C'est notre première photo. Hein. Et on ne peut pas dire, mais c'est le cerveau qui dirige le disque embryonnaire dans son devenir. Non, le cerveau vient des actions du disque embryonnaire. Et quand on réalise ça, on se rend compte qu'on vit dans une dimension autre que celle du matérialisme.
Et pour vous, je reviens un petit peu en arrière dans votre histoire, mais ce n'est pas grave, puisque le temps n'est pas le temps. En tout cas, n'est pas le temps linéaire. C'est que vous avez fait cette expérience, plus particulièrement, avec des formes de massage par lesquels ont commencé, en fait, votre initiation à la pensée de Durkheim, si j'ose dire. Votre initiation à sa pensée commence par une pratique corporelle qui vous est donc donnée par Frau Pelzer, je crois. Et alors, expliquez-nous ce qui s'est passé là. Pourquoi ce massage vous a fait prendre conscience que vous étiez un corps et qu'en même temps, votre corps n'était pas qu'un amas de matière ?
Je suis kiné, hein.
Oui, bien sûr.
Et comme le cordonnier qui est toujours le plus mal chaussé, j'ai un lumbago répétitif. Aussi bien, je vois les collègues, le chirurgien, qui me donne la date de l'opération, hernie discale, mais il me donne la date à laquelle Durkheim m'a invité chez lui en Allemagne. Je dis, Durkheim, je ne le verrai plus, peut-être, je ne le verrai qu'une fois. Le chirurgien, je peux le revoir, je le connais bien. J'arrive avec mes cannes chez Durkheim, et il me dit, qu'avez-vous ? Je dis, un lumbago. « Oh, ne vous faites pas opérer trop vite. Allez voir ma collègue, Madame Pelzer. » Elle m'accueille très gentiment, une très jolie femme, comme dans les films de Bergman, des yeux magnifiques. Et rien de la persona du kiné chez elle. Hein. C'était plutôt l'impression d'être chez un antiquaire avec des objets de valeur partout. Elle me demande ce que j'ai, je lui explique, et elle me dit « Bon, allongez-vous sur le ventre. » Comme kiné, je dis « Ça commence mal. Hein. » C'est la dernière chose qu'on propose à un patient, qui a un lumbago, couchez-vous sur le ventre. Et elle met ses mains sur mes épaules. Et ce n'est pas un massage, c'est plutôt une prise de contact, et j'ai envie de dire que ça ressemble plus à de la sculpture qu'à du massage. Et je me sens bien, mais ce n'est pas possible. Et tout à coup, les larmes viennent. Mais je me retiens, parce qu'on ne pleure pas devant une dame qu'on ne connaît pas en plus. Et elle me dit « Laissez venir ce qui vient ». Et là, je m'abandonne. Je n'ai jamais pleuré autant de ma vie qu'à ce moment-là. Et puis, elle me ment pour me tourner sur le dos. Elle met sa main sur le haras. Une chaleur douce qui m'envahit. La respiration qui change. Et puis, je suis là, je ne sais pas combien de temps. Jusqu'au moment où elle me dit « Très bien, levez-vous ». Et malgré ce bien-être, je me dis « Mais elle n'a rien fait pour mon lumbago. » Parce qu'en tant que kiné, je sais qu'on fait ça et ça et ça. Je me mets debout. Je ne suis plus plié en deux, mais droit comme un i. Je n'ai plus mal. Elle éclate de rire. Et elle me dit « Ah, je crois que votre dos était plein. » Et c'est vrai qu'à cette époque-là, dans mon existence, j'en avais plein le dos. C'était un autre regard sur le corps que celui qu'a le médecin ou le kiné. C'était ma première séance de Leib-thérapie. J'ai eu la chance de travailler 5 ans avec cette personne, 2 fois par semaine. Jusqu'au jour où Durkheim m'a dit « Maintenant, vous pouvez pratiquer, mais oubliez le mot kiné, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas du massage. »
Et vous le pratiquez encore ?
Encore, oui, oui. Et je forme aussi des personnes qui, après 8 années de pratique, sont autorisées aussi à proposer ce travail qui est vraiment passé de l'idée « j'ai un corps » à l'expérience « je suis corps » et à travers des qualités d'être comme le calme intérieur, la tranquillité, la sérénité. C'est vraiment une découverte du vrai soi-même.
Culture, les racines du ciel, Frédéric Lenoir, les lions var.
Et cette technique, enfin cette live thérapie, c'est quelque chose qui vient d'où, si je puis dire, c'est-à-dire c'est Durkheim qui l'a conçu, quelles sont ses racines? Est-ce que c'est dans une tradition ou
Graf Durkheim était docteur en philosophie, en psychologie. En philosophie, c'est dans le domaine de la phénoménologie. Il enseignait à l'université. Et au Japon, il a eu un choc terrible quand il s'est intéressé au Zen. Il a retrouvé la phénoménologie, mais pas une phénoménologie qui est encore intellectuelle, mais qui est très pratique, pragmatique, concrète, physique. C'est là qu'il a découvert l'importance du corps. Et son maître de tir à l'arc lui avait dit un jour, vous savez Durkheim, l'être s'accomplit dans les actions du corps. Il dit, c'est curieux, à l'université, comme mes collègues, je disais, l'être a besoin d'un corps pour s'incarner. Et voilà que mon maître de tir à l'arc me dit, l'être s'accomplit dans les actions du corps. Là, on peut comprendre le sens de tous les exercices qui sont proposés dans le monde du Zen. Quand il est rentré en Allemagne, après la guerre, il s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'il propose ce dont il avait fait l'expérience au Japon, mais que les Occidentaux qu'il rencontrait n'avaient aucun sens du corps qu'on est. Et comme il ne voulait pas leur apprendre à tous le tir à l'arc ou la cérémonie du thé, il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exercice qui permettrait à l'homme occidental de basculer dans cette expérience sans travailler le tir à l'arc pendant 15 ou 20 ans. Et avec des physiothérapeutes allemandes, dont Madame Pelzer, il a mis en place ce travail qui vous permet de vivre les expériences qu'on vit à travers la cérémonie du thé aussi. Et il avait l'impression que c'est ça qui ferait que pour la pratique du zazen, de la méditation, les Occidentaux entreraient avec un autre regard dans cet exercice. Et je crois qu'il avait tout à fait raison. En tout cas, les personnes qui bénéficient de ce travail sont vraiment enchantées parce que c'est une découverte, c'est vraiment un travail de découverte. On lève la couverture vraiment sur un soi-même qu'on ignore à travers la sensation. La sensation. C'est une expérience physique, c'est une expérience spirituelle, sensorielle.
Et oui, c'est aussi quelque chose dont qu'on a perdu, la qualité de sensation. Je me rends compte à quel point on est tellement dans nos pensées, dans la rumination de notre mental, que souvent on ne perçoit plus les choses par nos sens. Alors qu'on fait toujours un éloge, encore une fois, du plaisir, de la sensation, etc. Mais c'est une sensation qui n'est pas qualitative, qui n'est pas très réellement. Lorsqu'on fait la cuisine, on pense à autre chose. Lorsqu'on marche, on n'est pas sensible à la marche. On est dans nos pensées. Et donc, je crois que, effectivement, redécouvrir pour les Occidentaux, finalement, leur sens, leurs cinq sens, et d'être présent à leurs sensations, ce serait une vraie révolution.
C'est une révolution. La sensation n'a pas de passé, elle n'a pas de futur.
C'est donc vivre l'instant présent.
Voilà. Et elle vous permet de vous rendre compte que vous n'y vivez pas dans un espace pensé, avec la Syrie, l'Afrique, les États-Unis, la Russie, mais que vous vivez dans l'espace vécu. Et nulle part ailleurs, et que vous ne vivez pas dans le temps pensé, le Moyen-Âge, ou dans 50 ans, mais que vous vivez dans le temps présent, dans le temps vécu. C'est vraiment une thérapie.
Est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle, quand on lit, par exemple, les textes des très grands mystiques du passé, quelle que soit d'ailleurs la tradition à laquelle ils appartiennent, ils parlent de leurs expériences en termes précisément sensoriels. Alors, on peut prendre déjà le Cantique des Cantiques, hein, qui est un hymne à la...
Thérèse d'Avila aussi.
Voilà, Thérèse d'Avila, Rumi, enfin, tous ces grands mystiques, ils parlent en termes de goûter.
C'est ça.
Le réel, ils parlent du parfum de la vérité, ils parlent de leurs expériences vraiment très sensorielles, comme si leur âme était imprégnée, en fait, de ces sensations-là. Est-ce que c'est de la même nature, en fait ?
J'ai souvent entendu Graham Durkheim, quand il avait des religieux devant lui, leur dire, vous savez, il y a beaucoup plus de ce que vous appelez Dieu dans une sensation que dans une pensée sur lui. Et je crois qu'il avait tout à fait raison, il m'a persuadé de le sentir.
Et là, ça nous conduit peut-être à ce que vous disiez un mot sur la méditation ?
Je suis un peu triste aujourd'hui je suis heureux qu'il y ait 50 livres qui sont parus sur la méditation en 2014.
On sent que ça ne vous plaît pas tant que ça.
Mais ce qui ne me plaît pas, c'est qu'on forme un coach en méditation en 7 week-ends, à la condition qu'il pratique tous les jours pendant ces 7 semaines. On ne peut pas exiger ça d'un artiste ou d'un artisan. Ça me semble très superficiel. Et plutôt que de parler de la méditation de pleine conscience, je préfère parler, parce que c'est la traduction exacte aussi, de la méditation de pleine attention. La conscience, c'est l'ego. C'est à partir de l'âge de 3 ans. C'est la relation du sujet avec l'objet. Alors que la méditation de pleine attention, c'est avant l'ego. Le bébé vit dans l'attention, mais il n'a pas encore cette conscience qui nous permet de parler maintenant entre nous. Le fœtus est déjà dans l'attention. L'embryon, le disque embryonnaire, est déjà dans l'attention. Et c'est ça qu'il nous faut reconnaître aujourd'hui. C'est qu'il y a deux consciences. Il y a notre conscience qui objective la réalité. Elle nous donne une approche de la réalité à travers la pensée.
C'est la conscience réflexive.
Voilà. Mais il y a une autre approche de la réalité, c'est à travers le goût. Donc à travers le sentir, les cinq sens. Mais la sensation, elle est phagocytée immédiatement par l'ego. Je vois ça et je dis, tiens, un cartable par exemple, ah, un verre. Et on n'a pas le temps de voir vraiment ce qu'on voit. Et la pratique de la méditation de pleine attention, c'est vraiment aussi se glisser dans le sentir. C'est un bain de sensations, quelles que soient les sensations qui se présentent à vous au moment présent. Et ça aussi, ça rééquilibre l'être humain.
Alors en fait, ça me fait penser à... J'ai un grand-père qui a vécu pendant des années au Japon, qui était très amoureux de la culture japonaise, et il m'avait raconté quelque chose qui m'avait beaucoup frappé. Il m'avait dit, ce que j'admire, c'est chez les Japonais traditionnels, ceux qui sont vraiment dans une démarche intérieure, c'est que quand ils ont une œuvre d'art chez eux, Le jour où ils ont la sensation qu'ils ne la voient plus, ils la rangent et ils en mettent une autre à sa place. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est dans la... Il faut voir les choses, sinon...
Alors qu'est-ce qu'on fait avec les êtres avec qui on vit si un jour on a l'impression qu'on ne voit plus sa femme ou son mari?
Il faut changer.
Si on l'applique à tout.
Ou on peut changer son regard aussi. C'est peut-être ça le sens de la pratique spirituelle, c'est de changer son regard sur soi-même, le monde et les autres.
Et alors, je vais peut-être un petit peu changer de sujet encore que... À un moment donné, vous citez ce maître Sagino qui vous a beaucoup marqué, qui a été très important comme rencontre que vous avez faite au Japon. Donc c'est un maître de tir à l'arc, c'est ça?
Oui.
Et vous le citez et il dit en fait, le seul problème pour la plupart des hommes, aussi bien en Orient qu'en Occident, est la peur de la mort. Seulement si l'homme a eu ce que nous appelons l'éveil, il n'a plus peur de la mort. N'ayant plus peur, il vit sa vie autrement. Et il trouve une totale liberté. Alors ça m'a beaucoup intéressée, parce que vous parlez beaucoup du corps, et du fait que ça passe par le corps, cette présence. En même temps, la mort, c'est la dissolution du corps. Comment ça se fait qu'une pensée qui se base à ce point sur le corps dans sa totalité, dans toutes ses cellules, amène justement à ne pas avoir peur de ce qui est une dissolution de ce corps par lequel tout passe?
C'est parce que ce n'est pas une pensée sur le corps. C'est parce que se remettre en relation avec la réalité du corps. Je ne peux pas dire que je n'aurai pas peur de la mort. Je peux vous dire qu'en ce moment, je n'ai pas peur de la mort. Mais c'est parce que je sens que j'existe, que je vis. Je ne suis pas né pour me préparer à la mort. Je suis né sans doute pour vivre ce qu'on appelle la vie. Et c'est là qu'on se libère de cette obsession de la mort à travers la pensée. Elle sera toujours là en tant que pensée. Mais pour le moment, je ne peux pas même vous dire ce qu'est la mort, je n'ai pas encore fait l'expérience. Non, je crois que ce n'est pas pour se rassurer, c'est pour vivre la réalité de l'existence. Et quant à cette vie, elle n'est pas dans le vivant. Le vivant est la vie qui se réalise et s'organise en ce moment. L'être n'est pas dans le corps. Le corps est l'être qui se réalise et s'organise en ce moment et fait partie de cette action qu'est la vie, l'inspire et l'expire. C'est le moment du devenir, aussitôt suivi du dédevenir. Et ça, ce n'est pas de la pensée. C'est une expérience très concrète et très physique et qui vous... Mais au fond, dans ce cycle auquel on ne pourra jamais échapper.
Je voudrais rebondir autrement sur la question de l'Élie. On n'a pas du tout utilisé un mot jusqu'à présent qui est le mot esprit. On pourrait dire le mot âme, mais entendu comme esprit, comme fine pointe de l'âme, donc l'esprit. Est-ce que vous croyez, comme beaucoup de traditions spirituelles d'Orient et d'Occident, en l'immortalité de l'esprit?
C'est très ennuyeux votre question. Moi, je ne crois à rien.
Je fais appel à des intimes convictions,
oui,
pas forcément des expériences.
Je n'ai pas besoin de ça pour exister en ce moment. Je ne suis pas sûr que ça changerait mon existence de savoir ce qu'il y aura après. Ou... Je ne sais pas. Je crois que je suis assez agnostique au fond parce que je me contente, mais au bon sens du mot, se contenter, être content, d'oser me dire « tiens, tu ne sais pas ». Eh bien, vis avec ça. Mais ce n'est pas une nécessité que de vivre avec ça dans l'angoisse ou dans l'agitation.
Dernière question, il nous reste 2 minutes. Vous avez un centre donc, dans lequel vous transmettez ces exercices de sagesse. Je pense que ça peut beaucoup intéresser certains de nos auditeurs de savoir ce qui s'y passe, comment vous accueillez les gens, qu'est-ce que vous leur proposez dans votre centre et où se trouvent-ils?
Depuis 40 ans, je les accueille dans ce qu'on appelle des retraites, sur une période d'une petite semaine, au fond 4 à 5 jours. Parfois un week-end aussi, pour faire une retraite en silence. Le silence est la matière première aussi de l'enseignement qui est proposé, les repas en silence. Et naturellement, ce qu'il leur est proposé, ce sont des exercices, l'exercice de la méditation, mais aussi ces exercices qui engagent le Leib, comme dans la Leib-thérapie, le Leib-Weg, c'est-à-dire Taïdo en japonais. C'est la voie à travers les expériences du corps qu'on est. Ils peuvent aussi prendre des séances individuelles de l'herbe-thérapie, comme celle dont j'ai profité quand j'avais le dos qui était plein.
Je sens que vous allez avoir plein de gens qui en ont plein le dos pour venir vous voir. Ça donnait envie. Hein.
Mais ça pourrait être une chance pour eux de, non seulement de bénéficier d'une solution ponctuelle, mais après de vivre autrement.
Bien sûr.
Dans la relation au corps qu'on est.
Et vous proposez aussi ça. Du tir à l'arc, de l'aïkido?
Non, pas du tout. Non, j'ai vraiment repris ce qu'il y a d'universellement humain dans ces techniques très simples, la méditation de pleine attention et des exercices du Leibweg, du corps qu'on est.
Surtout que ça demanderait beaucoup plus qu'une semaine pour s'initier au tir à l'arc, comme vous nous l'avez bien
oui,
dit.
Oui, justement, et ce n'est pas nécessaire, parce que la méditation de pleine intention, on peut la reprendre chez soi après. Et dans les expériences du corps, on peut aussi se prendre autrement en tant que corps, pour ce qui nous reste à vivre. Donc il y a une suite à ces 5 journées.
Et à quel endroit se trouve votre centre?
Alors je suis dans la Drôme, entre Valence et Montélimar.
Et pour avoir des renseignements, donc vous avez un site internet, j'imagine?
Oui, vous faites Centre Durkheim ou Jacques Casterman. Et...
Alors, Centre Durkheim, Durkheim, ça s'écrit, c'est pas comme le sociologue.
Ah, c'est,
hein.
Pas commode, c'est pas comme.
C'est pas Émile. Alors, Durkheim s'écrit D-U avec le tréma, R-C-K-H-E-I-M.
Voilà. Mais il n'y a pas de tréma sur internet.
Et ben c'est vrai. C'est sur cette parole que nous allons terminer cette émission. Je rappelle votre ouvrage, La sagesse exercée, un parcours autour de la méditation aux éditions du Relier. Merci beaucoup Jacques Casterman.
Merci à vous.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous irons rencontrer chez elle Françoise Héritier. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.